Vibrant, vibrante, le podcast qui brise les tabous de la sexualité.
Je trouve pas de plaisir dans ma sexualité, parce que c'est celle qu'on m'a dictée.
Mettre son doigt dans son vagin,
qu'est-ce qui va faire qu'on va aussi arrêter de se juger entre nous les femmes?
On parle d'énergie sexuelle dans le tantra, et pas forcément de sexualité ou de sexe.
On n'a pas passé 2 mois sous la couette quand même?
Non. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibrante. Avant de commencer, je voulais juste faire une petite dédicace, parce que ça fait plus de 2 ans et demi, Carole, qu'on fait ce podcast.
C'est le bonheur d'être avec toi, Laura.
C'est partagé. Et vous qui nous écoutez actuellement, on voulait vous remercier, parce que vous êtes toujours aussi nombreux, nombreuses. Et puis c'est grâce à vous aussi qu'on a aussi fait évoluer notre podcast. Si vous vous rappelez, au début, c'était un peu les bases de la sexualité, des formats plus courts. Et aujourd'hui, on prend vraiment du plaisir à inviter une personne et à parler longuement. Vous l'avez vu, parfois c'est 30 minutes, parfois c'est 50 minutes. On se laisse vraiment porter avec la discussion. Et nous, ça nous fait plaisir de partager ça avec vous. Alors on vous remercie. Voilà. C'était un petit départ différent, t'as vu, Carole?
C'est bravo.
J'avais envie de faire un big up. Alors du coup, parce que revenons sur notre sujet qui est un peu différent de d'habitude, mais c'est un sujet qui nous tenait à cœur avec Carole. On nous a souvent catalogué de précoces zèbres surdouées, mais aujourd'hui on pose aussi un mot un peu plus agréable qui est HPI, au potentiel intellectuel. Et on va tout de suite revenir sur ce sujet plus en détail, mais sachez déjà que oui, ça a un impact sur la sexualité. Et que sûrement vous qui nous écoutez, peut-être, vous traversez également cela. Alors aujourd'hui, on reçoit Stéphanie Chambran. Bienvenue.
Bonjour.
Tu es psychanalyste jungienne.
Oui, absolument.
D'ailleurs, tu vas tout de suite nous expliquer en quoi ça consiste, je pense.
Alors en fait, il y a eu Freud. Ça, tout le monde connaît Freud. Jung était un élève de Freud et ils ont eu un gros désaccord sur la sexualité, justement. Pour Freud, toutes les névroses étaient sexuelles. Il a beaucoup parlé de l'hystérie, de la névrose des femmes qui étaient en manque de sexualité. Et Jung n'était pas d'accord. Et il a dit, OK, tout est énergie, mais ce n'est pas forcément sexuel. Cette énergie qu'on sent quand on a un désir sexuel, on peut le transformer dans de la création, dans une activité. Et leur désaccord a été sur ce point. Il y en a eu d'autres, mais donc du coup, ça parle d'une énergie un peu placée différemment, qui peut être sexuelle, mais qui peut être autre chose.
C'est fou parce que justement, c'était un sujet dont on avait commencé à parler sur l'énergie avec Laura Berlingot, sur qu'est-ce que c'était le désir.
Ouais.
On l'avait évoqué, Carole, et on disait on peut même mettre une image comme une boule d'énergie ou quelque chose de cosmique ou j'en sais rien, mais pas forcément. Enfin, on peut mettre un peu de métaphore là-dessus pour le visualiser aussi ce désir-là.
Le désir, c'est un grand débat qu'on peut tous savoir sur c'est quoi le désir. Mais une chose où on est d'accord, c'est l'énergie. D'où ça peut partir et qu'est-ce qu'on en fait à tel point qu'on peut avoir des pulsions sexuelles. Mmh. Et aussi, cette énergie, c'est ce qui fait qu'on se lève tous les matins.
D'accord.
C'est vraiment ça qui est important, c'est notre énergie. Et c'est pour ça que les gens mettent tout dans la libido.
Ouais.
Et il y a une différence entre la libido, qui est une énergie, et l'appétit sexuel, qui est quelque chose qui se construit, qui s'alimente par les fantasmes, par l'attirance. Donc c'est ça qui est bien, qu'on va discuter sur le rapport au corps, l'énergie.
Parce que justement, Stéphanie, pourquoi avoir voulu avoir choisi de nous parler de ce sujet-là, qui n'est pas forcément évident, et d'ailleurs qui est très tabou, des HPI et la sexualité?
Alors moi, je travaille avec beaucoup de HPI, des enfants, des ados, des adultes. Et clairement, il y a un rapport au corps qui est différent.
On peut préciser ce que c'est qu'un HPI
pour potentiel intellectuel.
Absolument. Alors, c'est compliqué de les définir, mais en fait, chez un HPI, tout est exacerbé en interne. Ça se voit pas forcément, mais les sentiments, les sensations, les émotions. Il y a un grand besoin d'analyser, un besoin d'utiliser les mots justes. Et puis surtout aussi un cerveau en arborescence. En fait, c'est une pensée très foisonnante. C'est une conséquence de beaucoup de connexions neuronales dans le cerveau. C'est une pensée qui se déploie parfois dans plusieurs directions, parfois en même temps, chaque idée se divisant en sous-idées, par association, analogie. Enfin, dans un schéma classique, à l'école par exemple, on apprend A, B, donne C, A, ça donne B, ça donne C. et on reproduit. Dans le schéma d'un cerveau en arborescence, A, ça donne B, mais B, ça peut donner C et D, D, ça donne E et F. Et quand les autres en sont à B, et ben, un HPI, il en est à Y, hein, mais il y a peut-être W. Et... Alors, c'est extrêmement créatif, mais c'est très différent des autres, ce qui les amène à se sentir complètement à part, très jeunes.
Et à être fatigués aussi.
À être fatigués, absolument.
J'imagine.
Et à ne pas se sentir compris.
Oui. À se sentir complètement en dehors.
En dehors, ouais. Ils ne sont pas compris en général et ils se disent « je ne suis pas normale ».
Exactement. Et on leur dit aussi. Hein.
On leur fait leur grand truc,
c'est que tout petit, on leur dit « t'es étrange ». T'es étrange, t'es bizarre.
Tu ne ressembles pas aux autres.
Ouais. Ouais.
Et c'est toi le problème.
Ah bah forcément.
Forcément. Exactement.
Donc voilà, un HPI, c'est ça. Alors après, il y a plein de définitions, mais pour moi, c'est essentiellement ces caractéristiques-là, sachant que chaque personne est unique et chaque cas de HPI est unique et certains vont être... Enfin, ils sont tous très différents, mais ils ont ces points communs quand même.
Et je pense que c'est des gens qu'on peut... Alors déjà, on essaie tous de rentrer dans des cases, d'accord, même si on se dit qu'on est tous uniques, mais c'est quand même des gens qu'encore moins on peut faire rentrer dans des cases parce qu'il y a toujours. On calcule le quotient intellectuel, on oublie souvent de calculer le quotient émotionnel, qui est important, qui joue pour ces gens atypiques ou ces gens 10 parce qu'ils font partie de la famille des 10. Et qu'une personne qui a un QI de 135 ou de 155, mais en tout cas, le même QI, ils sont encore différents.
Oui.
On peut pas... Ce qui est compliqué dans cette spécificité, c'est qu'on ne peut jamais encore moins mettre de cases. Parce que chacun, avec sa sensibilité, ses émotions, fait que c'est... Voilà. Si je dis ça, parce que je pense que c'est important de dire ça pour tous les gens qui vont nous écouter, parce qu'à un moment on veut se redire « Alors, moi, si je suis 135 ou 155 ou 145 ou 120, je vais ressembler à ça. » Non.
Ça n'a rien à voir.
On est encore unique.
Et il y a un autre point qui me paraît très important, moi, dans tous mes patients et patientes, c'est les filles. Il y a quand même une particularité chez les filles HPI, c'est qu'elles ont une capacité de suradaptation très jeune. Et c'est important de faire la différence entre adaptation. On a tous besoin de s'adapter aux autres. Enfin, c'est quelque chose de normal. Quand je dis suradaptation, c'est au détriment de qui on est profondément. Et les filles, elles font ça très jeunes. À partir de toutes petites, elles comprennent que pour intégrer un groupe, il va falloir se suradapter, donc ne plus être elles-mêmes. Et je pense que ça a une vraie incidence sur la sexualité après.
Donc, ce que tu expliques, c'est que toi, dans les patients, patientes que tu as, il y a beaucoup de personnes, du coup, qui sont HPI.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose dont ils te parlent de manière assez évidente. C'est-à-dire, c'est un sujet qui vient tout de suite, la sexualité?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout, du tout. Non, non, c'est très intellectuel au début. On parle beaucoup de leurs pensées, de leur sensation de ne pas être adaptée. La sexualité, ça vient très tard. C'est même moi qui peux l'aborder sans qu'eux l'abordent.
D'accord.
Ouais. Non, c'est un sujet très compliqué.
Parce que ça touche davantage sur la partie émotionnelle du cerveau que la partie intellectuelle.
Ça touche les émotions et le corps. Et c'est ce qu'il y a de plus compliqué pour les HPI, le corps.
On va rappeler quand même.
Oui, j'allais dire, Carole, fais-nous un petit rappel sur... sur ce sujet de la sexualité, pour bien après en rentrer justement dans l'explication.
Enfin, la seule chose que je veux rappeler, c'est que notre premier organe sexuel, c'est notre cerveau.
Ok, donc on est dans le vif du sujet là.
Voilà. Donc on va comprendre au fur et à mesure qu'on va parler de tout ça, c'est que c'est ça, ça part de notre cerveau, et après ça vient s'infuser, comme je dis, dans notre corps. D'accord ? Parce que dans notre cerveau passent toutes nos images, nos fantasmes. Et après viennent ces sensations. Mmh. D'accord ? Et c'est vraiment... ça passe... alors, vous ne me voyez pas.
Alors là, Carole, pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, est en train d'essayer de faire un mouvement. Je me demande si tu ne danses pas d'ailleurs, Carole. Si vous avez une sorte de hula hoop, je ne sais pas.
Non, c'est vraiment que ça passe dans tout notre corps. C'est ces sensations qui passent de la tête pour... avoir cette érection, quelle qu'elle soit, sur notre pénis ou sur notre clitoris. Et de base, il faut comprendre ça pour tout le monde, en tout cas, que notre premier organe sexuel, c'est notre cerveau.
Ce qui fait justement que ça doit être extrêmement compliqué quand on ne comprend pas son cerveau.
Quand on ne fait pas le lien entre son cerveau et son corps.
Ouais.
Ouais, il y a un blocage. Alors, une hypothèse hein, qui serait pourquoi les HPI font moins le lien entre leur cerveau et leur corps. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, comme tout est exacerbé, les émotions, les sensations, il y a un moment, ils ont très vite compris que couper, ça allait les soulager de trop d'émotions. Donc, ils coupent. Donc, c'est tout un apprentissage et c'est compliqué de savoir, justement, comme Carole disait, refaire descendre du cerveau jusqu'au corps. Il y a, ça, chez les HPI, souvent, ils ont appris à couper parce que c'était trop d'émotions, trop, ils ne savaient pas gérer ça, c'est compliqué.
Donc ça veut dire que, alors après, loin de moi l'idée de vouloir faire des clichés de représentation ouais. de la sexualité, donc ça veut dire que soit on est à fond dans le sexe, ou dans une consommation, si on est dissocié du corps et du cerveau, j'imagine qu'on peut être à fond dans la sexualité, c'est baiser, ou bien est-ce que ça veut dire que, à l'inverse, on peut être complètement détaché, du coup, se dire, non, la sexualité, c'est pas pour moi, en fait, ça m'intéresse pas, quoi.
Je pense qu'il y a les deux, et il y a tout ce qu'il y a entre. Okay. Mais oui, ça peut être quand on arrive à lâcher et à prendre contact avec son corps, c'est des vraies vacances pour le cerveau, quoi. Mmh. Donc, une fois qu'on goûte à ça, quand on est HPI, ça peut même devenir addictif. C'est un des moyens de lâcher le cerveau. Quand on n'y arrive pas, on trouve ce que c'est. Enfin, moi, j'ai des patients qui me disent c'est un peu grotesque, je vois ce qui se passe, c'est un peu. C'est comme un show. Enfin, ils sont encore dans l'intellect et en train de regarder ouais. ce qui se passe, quoi.
Ok.
Parce que aussi, un des moyens dans la sexualité pour aller sur sa jouissance, c'est lâcher prise. La chose aussi qu'on ouais. parle beaucoup, ouais. le lâcher prise, mais qu'est-ce que c'est ? C'est tout un travail sur aussi ses émotions, son corps, s'accepter comme on est. Et sur les HPI, ils ont des facteurs à risque, souvent sur l'addiction porno.
Mmh.
Parce que c'est un moyen, addiction porno, dit masturbation.
Ouais.
C'est aussi un moyen de lâcher prise,
ouais. Ouais.
mais c'est assez court. Donc du coup, ils reviennent souvent. Alors, ils ne sont pas que addicts au porno. Hein. Il peut y avoir beaucoup d'addictions et pas du tout. Hein. Ouais. Il n'y a pas de généralité.
Non,
chacun fonctionne différemment. Bon, en tout cas, sur cette partie de sexualité, c'est un peu ce que moi, je peux retrouver sur les addictions.
Quand on parlait de suradaptation tout à l'heure, donc je disais surtout chez les filles, mais ça arrive chez les garçons, cette suradaptation, c'est aussi vouloir tout faire parfaitement.
Ouais.
Être un
dans
super bon coup, quoi. Et il n'y a pas de lâcher prise là-dedans non plus. Cette envie de bien faire qui est liée à la suradaptation, elle se retrouve souvent aussi. Ouais. Envie d'être performante, ce qui empêche de lâcher prise.
Mmh. Et du coup, sur les émotions, qu'est-ce que tu fais pour qu'ils intègrent leurs émotions?
Alors, c'est tout un travail. Pour intégrer les émotions, alors déjà, l'émotion, elle se sent dans le corps. Donc, on fait tout un travail de réapprentissage de, OK, qu'est-ce que je sens dans mon corps? Ça, c'est long de sentir, parce qu'ils ont appris à plus sentir. Mais voilà, quand c'est dans le ventre, quelle émotion ça peut être, quand c'est dans la gorge, je leur demande de montrer, d'imaginer, par exemple, cette boule d'énergie, de la nommer. Donc, OK, c'est de l'énergie. Est-ce qu'ils peuvent confondre? Ça peut être de la peur, de l'envie. Donc, on fait tout ce travail, au fur et à mesure, petit à petit, pour se réapproprier ce qu'on sent dans son corps, le nommer, et ensuite, ça remonte au cerveau. C'est dans l'autre sens, moi, ce que je fais. Ça passe par le corps et ça remonte au cerveau. OK, c'est quoi? D'accord. Et donc, j'ai peur, j'ai envie, j'ai pas envie. Mm-hmm. On fait tout ce travail, ouais. Pour se réapproprier l'émotion et la nommer.
Et donc, du coup, tu expliquais, Stéphanie, tout à l'heure un peu les premières caractéristiques et, des HPI. Mais quelles sont vraiment les grandes problématiques que toi, tu peux rencontrer dans ton cabinet?
Alors, chez les HPI ados, grands ados, enfin 18, 20 ans et adultes, vraiment, il y a deux problématiques qui reviennent très, très fréquemment. C'est la recherche de sens. Ma vie n'a pas de sens, mon job n'a pas de sens, ma relation n'a pas de sens. Et je cherche du sens, j'ai besoin de ça. Ça tombe bien, la psychanalyse jungienne, c'est une recherche de sens. Donc, c'est assez adapté. Et puis, j'arrive pas, je me sens tellement différent des autres, quoi. J'arrive pas, j'ai l'impression de jouer un rôle, j'ai l'impression de pas être dedans, quoi, jamais, dans mes relations. Ça, c'est vraiment les deux problématiques essentielles, ouais.
Et toi, Carole, là-dessus, sur aussi dans tes patients dans ton cabinet, quelles sont les problématiques que tu rencontres au niveau de la sexualité avec les HPI?
Alors, soit c'est des gens qui ont une sexualité tardive. D'accord. Parce que justement, qu'est-ce que je fais de tout ça? Toutes ces émotions qui arrivent sur la sexualité. Ce besoin de comprendre, ils ne le trouvent pas non plus. C'est quoi la sexualité? Comment ça fonctionne? Soit c'est des gens qui sont addicts dans l'addiction à la sexualité.
Ok.
Et puis, c'est aussi des gens qui confondent désir et plaisir, qui est proche, on est d'accord.
Mm-hmm.
Mais souvent, moi, je leur fais travailler sur cette notion d'envie pour qu'ils trouvent où est le plaisir. Parce que c'est le plaisir, c'est quelque chose d'émotionnel, quelque chose dont ils vont pouvoir se nourrir, sans parler de sexualité. Mais déjà, dans la vie du quotidien, c'est quoi le petit plaisir? Comment je mange mon carré de chocolat, par exemple? Et puis, le désir, c'est quelque chose qui se... Même si c'est un vaste sujet, le désir, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de définition. Mais c'est quand même quelque chose, pour moi, qui est lié à tout ce qui est fantasmatique. Que l'on peut se créer, que l'on peut évidemment imaginer, et qui est là aussi pour nourrir son énergie sexuelle, son appétit sexuel. Et donc, c'est toutes des notions qu'on peut leur faire ressentir. Évidemment, il faut que ça ait du sens pour eux. Donc, il faut toujours aller travailler vers où ils ont envie d'aller travailler, à quel moment ils sont prêts. Et il y a, pour certaines personnes, le fait de « je dois faire plaisir à l'autre ». Donc, je trouve ça assez souvent chez les femmes. « Je dois faire plaisir à l'autre ». Donc, c'est des gens qui s'oublient complètement dans leur sexualité, qui ne sont pas connectés à leur corps, ça on l'a dit, mais qui sont du coup des orgasmes... C'est très lointain. La jouissance même est très lointain. Donc, la masturbation, ils ne sont pas, sur leur propre sexualité. Et pour les hommes aussi, ça fait pour certains aussi ça, c'est la sexualité, à quoi ça sert, quoi on peut s'en passer.
Ouais, je fais le lien avec cette suradaptation en fait. Comme ils sont suradaptés depuis très longtemps, ce qui est important pour eux, c'est le plaisir de l'autre. Et ils confondent leur plaisir avec le plaisir de l'autre et ils passent à côté d'un plaisir personnel aussi, oui.
Et alors, là, on parle justement des problématiques, mais donc j'imagine que y a des solutions à ces problématiques.
Oui.
Est-ce qu'il y a des parcours ou des histoires, de personnes, voilà, où vous avez réussi à essayer de leur faire trouver le sens? Et donc, qu'est-ce que ça débloque en fait à partir du moment où on est pleinement dans sa sexualité chez eux, chez elles?
Carole.
Ah, j'allais te laisser la main. Je répondrai.
C'est des parcours souvent assez longs quand même.
Ouais.
Ça vient pas comme ça en trois séances. C'est une réappropriation de son corps au fur et à mesure, de son ressenti. Et à partir de ça, il retrouve du sens aussi. Une fois que la tête et le corps sont reconnectés, ça donne du sens. Et ça passe souvent, moi j'ai l'impression que ça passe souvent par... c'est assez galvaudé ce truc de dire « faut être dans le moment présent ». Alors moi quand je leur dis ça, ils me disent « ouais super, moi j'ai très envie d'être dans le moment présent, mais j'y arrive pas quoi ». Mais une fois qu'ils sont connectés à des petits instants dans le moment présent, parce que le plaisir c'est forcément dans le moment présent, il y a quelque chose qui commence à s'enclencher et ils sont... Alors, ce mot « être heureux », je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ils sont mieux, ils vont mieux. Ils ont envie d'être là avec des gens. Enfin, il y a quelque chose qui s'ouvre, en fait. Ouais. Et l'énergie revient, en fait. L'énergie revient, ouais.
Ils adorent... moi, je donne toujours beaucoup d'exercices.
OK.
parce que c'est des exercices concrets, pratiques. Donc, en fait, ils aiment ça. Parce que ou soit ils sont très rebelles encore, ou alors ils aiment ça pour aller ressentir toutes leurs sensations. Il faut dire que les HPI s'attirent entre eux.
Oui.
Donc, quand on a un couple HPI, c'est intéressant de travailler ensemble sur cette notion de sexualité. Et quand ils commencent à trouver cette notion de plaisir, tout de suite, les yeux, ils pétillent, quoi. Il y a quelque chose qui se passe chez eux où ça change en disant, bon, on a encore beaucoup du mal à se lâcher prise, mais là, moi, je les rassure tout de suite. Tout le monde a du mal à se lâcher prise. Et effectivement, être dans c'est quoi mes sensations à l'instant présent. C'est pas grave si dans 30 secondes, ça change, mais déjà, 30 secondes, c'est déjà bien. Puis après, on augmente le temps.
Oui. Ça passe par se ressentir ce qu'on ressent là, maintenant, tout de suite. Ouais.
Et dernière question, parce que ça me fait penser à ça, justement. Tu parlais que les HPI s'attiraient. Souvent, le gros problème des HPI, c'est de donner son mode d'emploi à l'autre qui ne comprend pas ce que je fais. Donc, du coup, par exemple, si tu as des couples avec une personne qui est HPI, une personne qui ne l'est pas, quel va être le conseil, toi aussi, Stéphanie, que vous allez donner aussi? Parce que si pas, on peut être célibataire, en couple, ce qu'on veut, en relation libre, polyamoureuse. Mais quand on est dans la sexualité avec quelqu'un et pas que avec soi, et quelqu'un, en l'occurrence, qui ne l'est pas, comment est-ce qu'on donne son mode d'emploi, justement? Ça peut peut-être intéresser nos auditeurs, nos auditrices ouais. là-dessus.
Déjà, la bonne chose, c'est qu'ils se comprennent. Ils ne savent pas vraiment où ils se comprennent, mais ils se comprennent. Ils disent, ah, elle me comprend. D'accord. Après, il faut que les apprendre à mettre des mots dessus, sur cette compréhension. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. C'est quels mots ils vont mettre, parce que, toujours pareil, si on est dans des couples hétéros, la caractéristique, l'homme et la femme, on parle pas le même langage, mais c'est qu'à un moment donné, l'avantage d'intellectualiser et de mettre des mots, comme ils sont déjà en sécurité parce qu'ils savent qu'ils se comprennent, ils savent pas où, des fois trop bien où ils se comprennent, mais ils se comprennent, et bah, du coup, ça, c'est aussi un apprentissage de bien mettre des mots et de se dire, on va faire ça ensemble.
Ok.
Et voilà. Après, l'autre difficulté, c'est que souvent, ils croient pas qu'ils sont HPI.
Oui.
C'est ça. Souvent, quand moi, je leur dis, ils disent, qu'est-ce qu'elle raconte? Et du coup, ça demande aussi d'autres rendez-vous, dire, ouais, vous avez raison, j'ai lu, effectivement, c'est bien moi. Et après, on fait des tests, on fait pas des tests. Ça, pour moi, c'est pas très important.
Non.
L'important, c'est comment je véhicule ça dans mon corps.
Ouais, et d'ailleurs, je pense que 90% des HPI, ce qui est une des caractéristiques des HPI, vous disent, non, mais il y a dû avoir, même quand ils font le test, il y a dû avoir une erreur dans le test.
Oui, hein. C'est vrai.
C'est le syndrome de l'imposteur. Qui est toujours là. Mais bon, en effet, ce test ou pas test, c'est pas le problème. C'est clair que deux HPI ensemble dans leur même vie de couple ou sexualité vont être plus complices directement. Et s'il y a HPI, pas HPI, en effet, comme tu disais, Carole, c'est le dialogue, en fait.
C'est ça.
Ouais.
Deux HPI ensemble qui ça peut être torride dans leur sexualité. Hein.
Ouais.
S'ils ont tous les deux une addiction un peu... porno ou quelque chose, ça peut donner des choses explosives, quoi,
ouais,
aussi.
Ouais.
Et là aussi, ils sont un peu...
débordés.
Débordés, quoi. Parce que c'est un débordement d'émotions encore, quoi.
Ouais, ouais.
En tout cas, on envoie plein d'amour au HPI.
Oui, plein.
Et à tous les autres.
Et à tous les autres, bien sûr, mais c'est vrai que souvent, ce sont un peu les laissés pour compte, on en parle, on a utilisé des mots qui n'étaient pas bons, surdoué, zèbre, etc. Et donc, vous qui nous écoutez, sachez qu'on est avec vous, que justement, ce podcast, il était aussi fait pour vous.
Oui, puis moi, je voulais dire que c'est quand même une merveille d'être HPI. Hein. C'est quand même des émotions, des sensations décuplées et qu'on a besoin des HPI dans le monde et dans la sexualité. Enfin, c'est plein de choses positives aussi.
Et c'est un très beau message, Stéphanie. Merci beaucoup d'être venue au micro de Vibrante.
Merci à vous.
Et à très vite.
C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de Grand Contrôle en partenariat avec le magazine Cosette.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.